avec l'Observatoire sociopolitique diocésain. Nous retrouvons Olivier Drapé, bonjour.
Bonjour.
Ce mois-ci, vous souhaitez faire un retour sur les dernières élections municipales.
Tout à fait, on a maintenant un peu de recul, ce qui nous permet de parler, de revenir sur cet événement important dans la vie démocratique d'un pays comme le nôtre, avec quelques constats très généraux concernant la politique nationale plutôt que la politique strictement locale. Un premier constat qui s'impose, c'est que il y a vraiment une très grande diversité de situations au niveau national et sur le plan territorial. On sait tous qu'il y a 35 000 communes en France, mais il y a un fort contraste entre la situation des communes de moins de 3 500 habitants, qui regroupent tout de même 15 millions de personnes, un tiers de la population. Situation qui n'a rien à voir avec celle qui prévaut dans les 45 villes de plus de 100 000 habitants, par exemple. On a beaucoup commenté, notamment lors de la proclamation des résultats du second tour, les résultats à Paris, Lyon et Marseille, mais il ne faut pas perdre de vue que ces trois villes représentent moins de 5% du corps électoral du pays. Or, dans les petites communes, les électeurs, on le sait, votent rarement en fonction de considérations purement idéologiques. Ils se déterminent plutôt en fonction de la personnalité du candidat qu'ils peuvent plus ou moins bien connaître, de leur proximité avec lui, de son bilan, etc. Si bien que je préfère dire dès le départ qu'il est difficile de tirer des résultats des municipales, des leçons politiques trop générales qui s'appliquent à tout le monde. Néanmoins, on peut tout de même tirer quelques leçons d'abord de ce facteur important qui est l'abstention très importante. Près de 43% ou plus, en tout cas de 42% des électeurs inscrits à l'issue du second tour, en dépit de l'attachement des Français à leur commune et souvent à la personne même de leur maire, se sont abstenus. Alors c'est peut-être un peu moins qu'en 2020, mais en 2020, il y avait eu la crise sanitaire liée au Covid. Par rapport à 2014, aux élections municipales de 2014, on voit qu'il y a une forte progression de l'abstention. C'était 36% en 2014, c'est donc plus de 42% aujourd'hui. Donc il y a vraiment, on peut le dire, une crise de la démocratie locale et une défiance croissante des électeurs, y compris ce qui est un peu nouveau, au niveau local. Alors peut-être qu'il y a plusieurs explications possibles. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que dans les petites communes, il y avait la plupart du temps une seule liste. Hein. Il faut savoir qu'au niveau national, près de 70% des communes ne comptaient qu'une seule liste. Et dans ces conditions, des électeurs peuvent être tentés de rester tout simplement chez eux plutôt que d'aller voter. Il y a d'autres explications possibles. Peut-être que la loi de mai 2025 qui a modifié le mode de scrutin, notamment pour les communes de moins de 1000 habitants, en interdisant le panachage, c'est-à-dire la possibilité de rayer ou d'ajouter un nom sur une liste, n'a pas non plus contribué, j'allais dire, à donner aux électeurs le désir de se déplacer et d'aller voter, puisque leur liberté de choix est effectivement donc réduite du fait du vote de cette loi. Donc, une forte abstention. Ensuite, un autre constat, qui vaut peut-être surtout pour les villes moyennes ou les grandes villes, la résistance, en quelque sorte, des partis traditionnels et donc la persistance d'un clivage droite-gauche que certains ont tendance à qualifier, à tort, je crois, de dépasser. Les Républicains et le Parti Socialiste, en fait, résistent et se maintiennent. Ils disposent toujours, l'un comme l'autre, d'un bon maillage d'élus locaux, de notables bien implantés, qui leur donnent une visibilité, mais aussi qui leur garantissent j'allais dire, de bons réservoirs de voix ou d'électeurs. On observe néanmoins que dans la plupart des grandes métropoles, c'est la gauche qui tire son épingle du jeu, majoritairement. C'est notamment le cas de Paris, de Lyon et de Marseille, bien sûr, mais aussi de Nantes ou de Rennes. Alors que la droite et les Républicains s'en sortent mieux dans les villes moyennes ou dans les villes de moindre importance. Autre constat, au niveau des partis politiques, Renaissance, ou en tout cas les listes ou les maires qui se réclament, j'allais dire, d'Emmanuel Macron, sont quasiment absents, comme il l'était d'ailleurs en 2020, de ces élections et se contentent en général d'être alliés d'autres formations comme les Républicains ou Horizon. Si on rentre davantage dans le détail, on voit que, en fait, la situation est quand même très contrastée pour ce qui est du bloc central ou du centre, parce qu'il y a d'un côté la victoire d'Édouard Philippe au Havre, mais la défaite de l'autre de François Bayrou à Pau. On peut relever aussi que l'ancien ministre d'Emmanuel Macron, Thomas Cazenave, a été élu à Bordeaux en battant l'écologiste Pierre Humic. D'ailleurs, puisqu'on parle des écologistes, il faut bien considérer qu'ils apparaissent comme les perdants, les grands perdants de ces élections, puisque les mairies de Bordeaux, Poitiers, Besançon, par exemple, sont conquises par la droite et le centre. Un quatrième constat qui concerne les listes dites extrêmes, le Rassemblement national tout d'abord, confirme sa progression, mais celle-ci est en partie contenue par la persistance d'un cordon sanitaire. C'est une sorte de survivance du Front républicain. Alors, bien sûr, à une exception près, je crois, tous les maires RN sortants sont largement réélus. Mais à l'exception de Nice que conquiert Éric Ciotti, allié du Rassemblement national, ce sont surtout des villes moyennes, Menton, Carpentras, Carcassonne, la Seine-sur-Mer en particulier, et de nombreuses petites communes rurales que gagne le Rassemblement national, qui en revanche est en échec dans les grandes villes, notamment celles qu'il espérait conquérir, Marseille et Toulon. Le RN fait d'ailleurs parfois des scores dérisoires dans certaines grandes villes, moins de 2% je crois à Paris par exemple. On peut donc considérer qu'il y a eu un barrage efficace et qu'il y a toujours un plafond de verre qui gêne l'essor du Rassemblement national. Il n'y a pas eu d'union des droites, au contraire d'une certaine manière, puisque par exemple à Nîmes, c'est le maintien d'un candidat républicain, LR, qui a rendu possible l'élection d'un maire communiste opposé à un candidat du Rassemblement national. Donc, des succès, un renforcement, mais peut-être plus limité que ce que le RN pouvait espérer. Autre constat, la percée d'un autre parti considéré comme radical ou extrémiste, LFI, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, alors bien sûr, conquête de Saint-Denis dès le premier tour, conquête de Roubaix au second tour, mais aussi conquête de Creil, La Courneuve, Vénissieux, Vaux-en-Velin, et entrée d'un grand nombre de conseillers municipaux dans un grand nombre de communes. On constate par ailleurs que il y a autour de ces succès que j'évoquais l'émergence d'un vote qu'on pourrait qualifier de communautariste, que certains qualifient même d'ethnique. Je me rappelle effectivement avoir vu le maire de Creil remercier la communauté pakistanaise de son élection, c'est un maire LFI. Bref, LFI a misé avec succès sur un électorat issu de l'immigration que Mélenchon appelle la Nouvelle France, ce qui conforte Éric Zemmour dans sa dénonciation de ce qu'il appelle, lui, le grand remplacement. En tout cas, il y a une donnée démographique incontestable qu'on ne peut pas nier et qui est un fait nouveau depuis ces dernières élections municipales. En tout cas, c'est un peu une révélation depuis ces municipales de 2026. Au clivage droite-gauche et France profonde, et France périphérique, si vous voulez, se superpose donc un nouveau clivage, un clivage communautariste qui montre une fragmentation, une fracture du pays, ce qui est effectivement plutôt un élément inquiétant. Dès lors, il est difficile de se projeter dans l'avenir. Quelles leçons tirer dans la perspective des présidentielles et des législatives de 2027 de ces élections municipales? Je crois que c'est très compliqué de se lancer dans cette politique fiction. Si ce n'est pour dire peut-être que une alliance entre PS ou gauche traditionnelle et LFI n'est pas invraisemblable, ne serait-ce que pour faire barrage à l'extrême droite, comme on dit. Un constat, Édouard Philippe qui sort renforcé de son élection au Havre et il apparaît en l'état actuel des choses comme le seul candidat du centre, on va dire, susceptible de battre Jordan Bardella ou Marine Le Pen lors des élections présidentielles au second tour. Encore faut-il pour cela que la droite et le centre sachent s'entendre sur un candidat unique en vue de ces élections pour être qualifié au second tour, ce qui, bien entendu, est loin d'être le cas actuellement et loin d'être gagné pour eux.
Olivier Drapé, merci beaucoup. Pour rentrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, un numéro de téléphone, le 05 33 06 96 82.